VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, très bon début de journée à l'écoute de VOA Afrique. Au micro, Nicolas Pineau et Michel Joseph. Bonjour Michel.
Bonjour Nicolas.
À la une de notre émission ce matin.
À Bangui, le CNT donne une semaine au gouvernement de transition pour rendre l'armée opérationnelle.
Alassane Ouattara officiellement investi hier pour un nouveau mandat en Côte d'Ivoire.
Le contraste est surtout frappant par rapport à la situation de 2010 où il y avait eu une double investiture de président.
Le mystère plane toujours en Égypte après le crash de l'Airbus le week-end dernier. L'analyse des boîtes noires pourrait prendre des semaines.
Dans la partie magazine de notre émission, nous vous emmènerons au Mali à Bamako où se déroulent les rencontres photographiques.
Et on est devenu comme une famille, c'est ce que je dis. Je dis moi je sais lire et écrire. Elles ne savent pas écrire ni lire, mais j'apprends avec elles chaque jour.
Et comme tous les matins, vos rendez-vous habituels, la Minute Écho et le journal des sports, la sixième étape du Tour du Faso et la Ligue des Champions. Le Real de Madrid qualifié, mais tout d'abord sur VOA Afrique, le journal.
Tension à Bangui entre les autorités de la transition et le Parlement provisoire. Les membres du Conseil national de transition vont marcher ce mercredi jusqu'à la place des Nations Unies pour réclamer que les forces armées centrafricaines opérationnelles d'ici une semaine. Le point avec notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
Il s'agit véritablement d'un ultimatum lancé par le Conseil national de transition au gouvernement à l'issue d'une concertation des parlementaires ce mardi. Une semaine franche pour réarmer les forces armées centrafricaines et les redéployer aux côtés des forces internationales jugées inefficaces et passives devant les violences. Le Parlement provisoire qualifie de trahison l'immobilisme de l'exécutif qui, selon lui, n'a rien fait pour empêcher les violences qui ont embrasé le sud-ouest de la capitale, causant d'énormes dégâts humains et matériels. Aujourd'hui, l'heure n'est plus au discours, mais à l'action, affirme Alexandre Ferdinand Guendé, président du Parlement de la Transition. Dans son adresse à la Nation le lundi 2 novembre, la chef de l'État, Catherine Samba-Panza, a annoncé l'envoi des forces de défense nationale dans les zones en proie aux hostilités. Le Conseil national de transition veut donc s'assurer de l'effectivité de cette annonce et pour mettre plus de pression, les parlementaires ont décidé d'une marche ce mercredi. La marche qui débutera au siège du Parlement aura comme point de chute place des Nations Unies. Freeman Sipila Bangui, VOA Afrique.
Investiture hier pour un nouveau mandat de 5 ans du président Alassane Ouattara. Le chef de l'État ivoirien a appelé à la construction d'une Côte d'Ivoire nouvelle, promettant de renforcer le processus de réconciliation, de mieux redistribuer les richesses et de rédiger une nouvelle constitution. On en reparle dans la deuxième partie de notre émission.
En Ouganda, la campagne pour les élections présidentielles de février prochain est lancée. Hier, Yoweri Museveni est devenu officiellement, et pour la quatrième fois, le candidat de son parti, le MRN, Mouvement de Résistance Nationale. Pour l'occasion, Museveni s'est offert un immense meeting au Kololo Airstrip à Kampala, où des milliers de personnes l'attendaient.
Au Burkina Faso, Alain-Edouard Traoré, ex-ministre de la Communication et dernier porte-parole du dernier gouvernement déchu, a été arrêté et écroué pour des malversations présumées. Les précisions d'Arzuma Compaoré.
C'est le quatrième ministre du dernier gouvernement de Blaise Compaoré à être écroué. Alain-Edouard Traoré a été interpellé et emmené à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou. D'après Armand Ouedraogo, procureur de la Cour de justice, cette arrestation est liée à une affaire de corruption. Les députés du Parlement intérimaire ont voté à la mi-juillet la mise en accusation de 9 ministres, dont M. Traoré, pour détournement de deniers publics et enrichissement illicite. Le Parlement lui reprochait de multiples violations des procédures de passation de marché public qui ont permis de détourner ou dissiper 100 millions de francs CFA à son seul profit.
Toujours à Ouagadougou, en prélude à la réunion des chefs des armées du G5 Sahel, regroupant le Mali, le Niger, le Tchad, la Mauritanie et le Burkina Faso, plus la France, le chef d'état-major des armées françaises, le général Pierre de Villiers, a été reçu en audience par le président de la transition, Michel Kafando. On l'écoute.
Nous avons un objectif en commun depuis 18 mois qui est la lutte contre le terrorisme, protéger les populations, apporter la paix à ces populations, en particulier par une approche transfrontalière puisque, comme vous le savez, les terroristes sont très mobiles et profitent de ces frontières. Tous les pays de la bande sahélo-saharienne sont concernés et c'est précisément cela qui fait que nous devons travailler ensemble et mieux coopérer encore. Il y a les groupes armés terroristes au nord de cette bande, il y a aussi Boko Haram Et les terroristes frappent, vous le savez, ils frappent partout où ils peuvent. Et plus nous serons forts, plus la violence reculera.
Le chef d'état-major des armées françaises, le général Pierre Devilliers.
Une médecin nigériane qui avait survécu après avoir contracté le virus Ebola a donné naissance à une petite fille en Californie, aux États-Unis. Selon l'hôpital de Lagos, Madame Igono était sous surveillance médicale depuis le début de sa grossesse et les tests Ebola pratiqués sur sa fille à sa naissance se sont révélés négatifs. L'épidémie d'Ebola apparue fin décembre 2013 a fait quelque 11 300 morts, dont 99% en Sierra Leone, au Libéria et en Guinée, selon l'OMS.
Des affrontements entre les forces gouvernementales et celles du principal parti d'opposition au Mozambique, la RENAMO, ont fait plusieurs morts depuis la semaine dernière dans le centre du pays. C'est ce qu'a affirmé la police mozambicaine hier.
En Angola, 18 jeunes ont été arrêtés ce week-end à Lobito, sur la côte atlantique, lors d'une manifestation de soutien à 15 opposants incarcérés depuis juin à Luanda. Les précisions d'Anastasie Tudiesh.
Parmi les 18 personnes arrêtées figurent Sigilio Suburbano et Avisto Botta, deux rappeurs très connus. Leur avocat David Mendes affirme qu'ils sont accusés de troubles à l'ordre public. Il n'a pas pu les rencontrer et la police a refusé tout commentaire sur le sujet. Ces jeunes avaient manifesté samedi en soutien à 15 activistes détenus à Luanda depuis le mois de juin, dont le rappeur Luati Beirao, qui vient d'interrompre 36 jours de grève de la faim. Tous les prévenus sont accusés de rébellion et de tentative de renversement du président José Eduardo dos Santos au pouvoir depuis 1979. Ils sont pour la plupart membres du mouvement révolutionnaire de l'Angola qui réclame depuis 2011 le départ du président dos Santos et plus de justice.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, l'analyse des données des enregistreurs de vol de l'avion russe qui s'est crashé en Égypte pourrait prendre beaucoup de temps, soulignent ses responsables. Aucun élément concluant sur la cause du crash de l'Airbus A321 n'ayant émergé jusqu'à présent. L'exploitation des enregistreurs a débuté hier dans les locaux du ministère égyptien de l'aviation civile. Par ailleurs, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a déclaré dans une interview à nos confrères de la BBC que cela prendrait du temps de déterminer la cause du crash qui a fait, je vous le rappelle, 224 morts.
L'armée russe a pour la première fois bombardé des cibles en Syrie grâce à des informations données par ce qu'elle présente comme des représentants de l'opposition syrienne, le général Andrei Kartapolov, chef des opérations militaires russes en Syrie, n'a pas précisé qui étaient ces forces patriotiques. 12 avions russes ont bombardé 24 cibles dans les régions de Palmyre, Deir ez-Zor, Itria et à l'est d'Alep.
Par ailleurs, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, va recevoir aujourd'hui à Moscou l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, pour progresser dans l'établissement d'un dialogue réel entre Damas et l'opposition syrienne. On sait que Moscou ne fait pas du maintien de Bachar el-Assad au pouvoir une question de principe. Le ministère russe des Affaires étrangères l'a répété hier, suggérant ainsi une divergence de vue avec l'Iran, l'autre grand soutien du président syrien. L'éclairage de Chérubin Dorsil.
Déjà lundi, le chef des très influents gardiens de la Révolution avait exprimé des doutes apparents sur le soutien inébranlable de la Russie envers Bachar el-Assad, estimant que Téhéran était probablement plus engagé que Moscou envers le leader syrien. Pour le général Mohammad Ali Jafari, il n'y a pas quelqu'un de mieux pour le remplacer. Mais un observateur averti de la région met en garde contre les conclusions hâtives sur ces déclarations publiques. Selon lui, la Russie et l'Iran sont d'accord sur la nécessité de garder M. Assad au pouvoir, tout en soulignant qu'il incombe au peuple syrien de décider de son sort. En revanche, les États-Unis et leurs alliés du Golfe, ainsi que la Turquie, insistent sur le départ de M. Assad comme préalable à un éventuel accord de paix. Vendredi à Vienne, au pourparlers multilatéraux sur la Syrie, il n'a pas été possible de s'entendre sur le sort de Bachar el-Assad.
4 migrants, dont 2 enfants, ont péri noyés hier après être tombés d'un bateau passeur qui se trouvait en difficulté au large de l'île grecque de Lesbos, en mer Égée.
Et puis le scandale des moteurs truqués de Volkswagen prend de l'ampleur. La filiale nord-américaine de Porsche a annoncé cette nuit qu'elle cessait de vendre les 4x4 Cayenne diesel des années 2014 à 2016 jusqu'à nouvel ordre, et ce au lendemain d'accusations inattendues de l'Agence américaine de protection de l'environnement, selon lesquelles ces voitures auraient également été équipées de logiciels truqueurs. Voilà, c'est la fin de ce journal sur VOA Afrique. Comme tous les matins, place à votre rendez-vous, la Minute Éco, qui vous est présentée aujourd'hui par John Linden.
En République démocratique du Congo, on parle de croissance soutenue, mais cette dernière risque d'être freinée du fait du retard du développement des infrastructures. Selon le magazine Jeune Afrique, alors qu'elle tablait en début d'année sur une croissance du PIB de 10,3% en 2015, les autorités ont dû revoir leurs prévisions à la baisse en raison du ralentissement de l'activité économique au premier semestre. Principale cause de ce ralentissement, la chute des cours mondiaux du cuivre, qui ont atteint leur plus bas niveau depuis 2009, soit environ 5 100 $ la tonne au 31 août, soit une baisse de 26,8% sur un an. Les échanges commerciaux de biens du Sénégal se sont traduits par une atténuation de 21,4 milliards de francs CFA, environ 34,240 millions de dollars, du déficit commercial durant le mois d'août 2015. L'information publiée par nos confrères d'APA News est de la Direction de la prévision et des études économiques en abrégé DPEE. Ici aux États-Unis, Twitter a annoncé mardi qu'il abandonnait l'étoile qui permettait jusqu'ici à ses utilisateurs de marquer leur contenu favori sur son réseau et la remplaçait par un cœur pour signaler les messages qu'ils aiment. Le réseau social américain fait valoir que ce nouveau système, qui rappelle celui utilisé par le rival Facebook avec son fameux bouton « J'aime », symbolisé par un pouce en l'air, permet aux utilisateurs d'exprimer plus simplement leur opinion.
Merci John pour cette Minute Écho. On passe au sport dans notre émission. Et pour en parler, nous accueillons Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Nicolas.
On parle cyclisme, la sixième étape du Tour du Faso ce matin.
Oui, la sixième étape du 28e Tour du Faso, c'est ce matin entre Pas et Bobo-Dioulasso dans l'ouest du pays, une distance de 134 km. Et soulignons que hier, l'Érythréen Michael Hampton a remporté la cinquième étape de ce tour entre Koudougou et Boromo, longue de 115 km. Mais la course, il faut le dire, a connu une chute à 1 km de l'arrivée et a contraint donc le capitaine de l'équipe malienne, Tidiane Sanogo, à finir la course sur le vélo d'un villageois.
Parlons à présent de football en Europe, la quatrième journée de la Ligue des Champions qui a débuté hier soir.
Oui, dans le groupe A, Shakhtar Donetsk écrase Malmö 4-0. Le Real Madrid est venu à bout du Paris Saint-Germain 1-0. Dans ce groupe A, donc, le Real est en tête avec 10 points, suivi du Paris Saint-Germain 7 points. Dans le groupe B, PSV Eindhoven a dominé Wolfsburg 2-0. Et Manchester United a eu raison du CSKA Moscou 1-0. Dans ce groupe, Manchester United est en tête avec 7 points, suivi du PSV Eindhoven, 6 points. Dans le groupe C, à Lisbonne, Benfica a battu Galatasaray 2-1. Et match nul 0-0 entre FC Astana et l'Atlético Madrid. Dans ce groupe C, donc, Benfica est en tête avec 9 points, suivi de l'Atlético Madrid, 7 points. Dans le groupe D, FC Séville a été laminé par Manchester City, 3-1. Match nul, 1-1 entre Mönchengladbach et Juventus de Turin. Dans ce groupe, c'est Manchester City qui est en tête avec 9 points, suivi de la Juve, 8 points. Il faut dire que les deux premiers de chaque groupe sera qualifié en 8e de finale. Le troisième disputera l'Europa League. Les équipes sont départagées via les rencontres directes, puis via la différence de but général.
Un mot de tennis pour vous dire qu'au Masters de Paris-Bercy, Novak Djokovic s'est qualifié sans frémir pour les huitièmes de finale du tournoi. Le numéro 1 mondial a dominé le Brésilien Thomas Bellucci en 7-5, 6-3. Le double tenant du titre affrontera au prochain tour le Français Gilles Simon, deux outsiders, le Suisse Stan Wawrinka et l'Espagnol David Ferrer se sont également qualifiés pour ces huitièmes de finale.
Et pour terminer, Nicolas, quelques résultats de la NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Eh bien, Charlotte a largement dominé Chicago, 130-105. Lamb, auteur de 20 points. Indiana s'impose à Détroit, 92-84. En Floride, Atlanta bat Miami sur son parquet, 98-92. Belle performance également d'Orlando qui s'impose à l'extérieur, 103-94 face à la Nouvelle-Orléans. C'était la page des sports présentée par Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, merci. Le Monde, aujourd'hui, la deuxième partie de notre émission. Début du nouveau quinquennat d'Alassane Ouattara depuis hier et la cérémonie d'investiture accélérée. Monsieur Ouattara s'est engagé à construire une Côte d'Ivoire nouvelle, à renforcer la réconciliation, à mieux redistribuer les richesses du pays et à doter le pays d'une nouvelle constitution. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint le président d'agir pour la démocratie, la justice et la liberté en Côte d'Ivoire. On écoute Fernand Julien Gauze.
Le contraste est surtout frappant par rapport à la situation de 2010 où il y avait eu une double investiture de président et le président Alassane lui-même avait tenté une double investiture, une première par la voie du fier, une seconde dans les formes prescrites par la Constitution solennellement et devant donc le Conseil constitutionnel. Donc aujourd'hui, on est à plusieurs années-lumière de cette situation catastrophique qui a fragilisé l'institution ivoirienne et a donné de la Côte d'Ivoire une image malheureuse. Donc, je pense que le fait que tout se soit déroulé en accéléré procède aussi du souci de tourner cette page, de passer à l'essentiel, même si c'est vrai que l'investiture constitue, au terme de la Constitution, une étape importante, un symbole très fort.
Oui, il a promis une Côte d'Ivoire nouvelle. Qu'est-ce que vous attendez justement de son concept?
Ce que nous souhaitons voir dans ce chantier, c'est, comme je dis, un ensemble de valeurs qu'il faut ancrer dans la conscience des Ivoiriens, c'est-à-dire la stabilité politique, la paix sociale, la cohésion plus ou moins peaufinée entre les différentes tribus et les ethnies, et donc une vue publique qui était sans accroc et sans grand heurts. L'Ivoirien nouveau pour nous, c'est l'Ivoirien qui aspire véritablement à la paix et qui prend sa place en tant que terre de rencontre, terre de partage, terre de fraternité, terre de dialogue aussi.
Le président Ouattara veut changer la constitution. Est-ce que vous pensez que ça va être facile?
Alors, cela dépend de ce qu'on va changer dans cette constitution. On nous a dit qu'il y a quelques articles conflictuels dont il faut se débarrasser. Donc, il faudrait que la nouvelle constitution, si elle veut évacuer tout ce qui est conflictuel, ne soit pas elle-même votée dans la douleur et dans le conflit, dans le ressentiment ou dans la frustration. Il faut donc engager toutes les parties, toutes les composantes, pas seulement les composantes politiques, mais toutes les composantes de la nation, les forces vives, y compris bien sûr la société civile, et faire émerger le plus important, le plus essentiel, pour que demain la constitution ne soit pas encore une source de conflit et de fratricide.
Fernand Julien Gauze, il était joint à Abidjan.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
Et direction le Bénin dans cette émission. À peine démarrée, l'année scolaire a du mal à prendre forme dans le secteur public. Les centrales syndicales ont lancé un mouvement de grève de 72 heures, scrupuleusement respecté par les enseignants chaque mois. Reportage de la correspondante de VOA Afrique à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Le ciel de l'école béninoise s'est assombri de gros nuages qui en ont statut du corps enseignant, révalorisation de la fonction enseignante, révalorisation salariale. Et dans cette bataille gouvernement-syndicat, ce sont les apprenants qui en payent le prix élevé.
On n'a pas fait faux, parce qu'on aurait appris que la grève continue toujours. Le professeur n'est pas encore là. Ce n'est pas une situation normale.
Les classes sont vides, les élèves sont là, mais les profs ne sont pas là. Donc on attend pour voir. Ce n'est pas bien de commencer la rentrée scolaire avec une grève. On demande sincèrement au gouvernement de faire quelque chose, puisqu'on est là, on prépare notre avenir. Et ce n'est pas bien que les professeurs ou bien les syndicats mettent en jeu notre avenir.
Malgré les séances de négociation, les centrales syndicales restent imperturbables et refusent de se fier à ce gouvernement, espèrent quand il s'agit de faire des promesses, absents quand il faut les tenir.
Le constat que nous avons fait, c'est que le gouvernement entretient un certain flou.
Avant que la grève ne cesse définitivement, il y a deux préalables. La signature du décret portant statut des enseignants de la maternelle, du primaire, du secondaire. Deuxième chose, le relevé des conclusions que nous avons eues.
On s'est mis d'accord sur le paiement des 1,25 aux enseignants de la maternelle, du primaire, du secondaire, technique et professionnel. Premier point qui constitue une victoire pour les enseignants. On s'est mis d'accord sur la signature des statuts particuliers des enseignants de la maternelle et du primaire, puis de celui du secondaire technique et professionnel. Le troisième point, nous avons dit qu'il s'agit d'engager les négociations avec les responsables des enseignants pour l'application progressive du contenu des statuts particuliers.
Le gouvernement demande du temps pour se mettre à jour et satisfaire les revendications, mais les centrales syndicales disent avoir épuisé le crédit patience emmagasiné.
Nous avons déjà fait preuve de notre patience. Nous espérons que le gouvernement va accélérer la procédure afin que, à la fin, d'ici à là, que nous puissions, d'ici à une semaine, connaître nos statuts particuliers. Sinon, nous ne serons plus responsables de rien et nous ne jurerons plus de rien.
Pour le moment, pendant que les apprenants du privé vont rigoureusement à l'école, ceux du public flagonnent en attendant que syndicats et gouvernement ne fument le calumet de la paix. De Cotonou, Ginette Fleur-Adonlé pour VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Golf FM, Cotonou. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
À l'approche du Girls Summit en Zambie, fin novembre, la Coalition internationale sur la santé des femmes organise ce jeudi à Washington une rencontre pour inciter le gouvernement américain à adopter une stratégie pour lutter contre le mariage forcé. Un chiffre, dans les pays en développement, une fille sur 9 est mariée de force avant l'âge de 15 ans. Nathalie Barge a joint Françoise Girard, présidente d'International Women's Health Coalition.
Ce qu'on veut, ce ne sont plus des déclarations ou des initiatives, mais on veut passer de la rhétorique à l'action, donc avoir des budgets pour appuyer l'éducation secondaire des filles, leur éducation sexuelle, la lutte contre les violences, contre les mutilations génitales, qui sont souvent un précurseur au mariage forcé, et en général, mettre les adolescentes au centre des interventions et de voir tout ce qui est nécessaire.
Au niveau des lois de certains gouvernements, notamment de l'âge légal du mariage, est-ce que vous avez une marge de manœuvre qui vous permet de les influencer?
C'est assez compliqué parce que dans certains pays, la loi n'a pas toujours un impact sur le terrain. Par exemple, au Cameroun, le Code civil permet le mariage des filles à l'âge de 15 ans avec le consentement des parents. Intéressant d'ailleurs, c'est pas le consentement de la fille, mais avec le consentement des parents. Ceci dit, il y a énormément de mariages alors que les filles n'ont que 12 ou 13 ans. Et souvent, ce sont les pratiques coutumières qui ont précédence.
À ce propos, un mot sur les États-Unis.
Eh bien, aux États-Unis, l'âge du mariage est déterminé par les États, donc ça varie d'un État à l'autre. Et il y a encore un bon nombre d'États américains qui permettent les mariages des filles et des garçons à l'âge de 16 ans. Alors, les États-Unis eux-mêmes ont quand même du ménage à faire dans leur législation.
On parle beaucoup de ce que peut apporter la jeune fille, la jeune femme en retour si on la respecte, mais la souffrance dans tout ça, est-ce que c'est pas un apport non plus d'éviter de la faire souffrir?
Oui, évidemment, et parce qu'elle souffre des sévices physiques, mais aussi des dommages psychologiques. On voit là vraiment la prise de conscience. Les mères nous disent « oui, je regrette vraiment. Et maintenant que j'ai pris conscience, je saurais quoi dire pour sa petite sœur. J'ai un autre discours en tête. » Alors autrefois, je n'avais même pas conscience que je pouvais dire autre chose.
Françoise Girard, joint à New York.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, gros plan sur la guerre en Syrie après la décision des États-Unis de déployer un petit nombre de leurs forces spéciales sur le sol syrien pour encadrer les combattants kurdes dans leur lutte contre le groupe État islamique. S'agit-il d'une inflexion dans la stratégie américaine? Les États-Unis doivent-ils en fait s'impliquer davantage militairement? Quid du rôle de la Russie? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Partons pour Bamako, où se déroule la 10e édition des rencontres biennales de la photo. Le travail des femmes maliennes y est à l'honneur, avec notamment le tissage d'Awa Meïta ou encore les photos de Malik Sidibé prises après l'indépendance du Mali. Reportage sur place de Kassim Traoré.
Les activités de la 10e édition des rencontres La Photo de Bamako se poursuivent normalement. Ndiaye Ramatoulaye Diallo, ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, nous parle du thème de cette édition.
La thématique retenue pour cette édition, Telling Time, Compter le temps, vise à utiliser la photographie comme un médium d'exploration de la notion de temporalité à travers la narration du passé, du présent et du futur.
La styliste et créatrice malienne a fait d'une pierre trois coups un hommage au vieux photographe de 80 ans, Malik Sidibé, étalait le savoir-faire des Maliennes en matière de tissage des plastiques recyclés. Le tout harmonisé avec un travail de design. Awa Meite, styliste.
La base de la production, c'est le coton et le plastique. Parce que les femmes ont un souci. La crise environnementale touche de plein fouet les femmes. Et de ce fait-là, on les sensibilise à la question du recyclage plastique. Et on est resté dans le noir et blanc pour cette collection-là, en hommage à Malik. On parle de Malik partout, jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il a su montrer une jeunesse africaine digne, qui en veut, qui veut s'émanciper.
Awa Meite a une équipe de femmes très forte en tissage. Elles ont fait du recyclage des plastiques une autre manière de contribuer à la protection de l'environnement.
Ces femmes-là avec lesquelles je travaille, bon an, mal an, elles savent qu'elles ont un salaire. Elles n'ont jamais tissé auparavant, mais là, elles ont appris. Elles arrivent à créer des choses. Et on est devenu comme une famille, c'est ce que je dis. Je dis, moi, je sais lire et écrire. Elles ne savent pas écrire ni lire. Mais j'apprends avec elles chaque jour. Et le tissage qu'elles font, je ne peux pas le faire. Donc, c'est une forme d'admiration que j'ai pour elles et tissant ces formes de solidarité.
Plusieurs créateurs et créatrices ont pris part au vernissage de l'exposition d'Awa Meite, comme Soukaina Mokhtar Diop du Sénégal.
Vous avez vu les sacs vous-même, vous avez vu l'originalité, les formes qu'on ne retrouve pas habituellement dans le marché. Et je pense que la symétrie qu'elle a fait avec le travail de Malik Sidibé, elle l'a fait ça depuis déjà l'année dernière dans son festival d'Aoulaba. La transposition aujourd'hui entre ces modèles, ces propositions de design aujourd'hui avec l'atmosphère d'il y a, je sais pas, 40 ans comme ça de Malik Sidibé, c'est tellement proche. Les photos de Malik sont intemporelles, le pain tissé est intemporel.
Cette exposition qui se tient en marge des rencontres photographiques de Bamako est soutenue par l'UNESCO et l'ambassade des Pays-Bas au Mali. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mercredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h dans Universel. Au menu, International Music, Comedy, Country Music. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Alors que cette semaine auront lieu les Country Music Awards aux États-Unis, je vous propose d'écouter Dylan Scott qui chante Crazy Over Me.
She said, honey, do you think I'm smart? I said, of course you are. Angel lying here in my arms. She smiled. Well, does this shirt make me look fat? I kind of leaned back and laughed. I said, huh, what kind of question is that? You're crazy. There ain't a girl in this whole wide world that could ever make me feel the way I do about you, baby. Yeah, you're crazy. But you can be as crazy as you want. About your hair, say you ain't got no clothes to wear. And when you finally make up your mind, you go and change one more time. We can go out on Friday nights. A pretty girl could walk on by. If you really think I'd check her out, come on now. You're crazy. There ain't a girl in this whole wide world that could ever.
Voilà, c'est sur ces notes de musique que va s'achever le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Michel Joseph, Nicolas Pineau à la présentation. Excellente journée à tous. On va saluer Pierre Dounia à Bangui, Cyprien Bigirimana à Kayogoro, c'est au Burundi. Comme retrouvez-nous sur Facebook et sur notre site internet voafrique.com.